l'Iran envisagera d'autres options si l'Occident retarde l'accord nucléaire. Irak, 5 terroristes daéchistes ont été tués dans le nord du pays. Et l'Algérie et l'Italie veulent accélérer la mise en œuvre des décisions prises sur le gaz et l'énergie. C'était les principaux titres. En voici le journal. Un non-législateur iranien a appelé dimanche 4 septembre les pays occidentaux à ne pas retarder la conclusion d'un accord nucléaire, avertissant que dans le cas contraire, l'Iran envisagerait d'autres options. Mahmoud Abbasadeh Meshkini, membre de la Commission de la Sécurité nationale et de la politique étrangère du Parlement iranien, a indiqué à l'agence presse officielle iranienne IRNA qu'un accord gagnant-gagnant était essentiel pour garantir les intérêts nationaux de l'Iran. Les Occidentaux ont davantage besoin de négociations que l'Iran. Si la partie occidentale ne conclut pas un accord, nous avons d'autres options sur la table et les mains de l'Iran ne sont pas vides à cet égard, a-t-il souligné. En réponse à une question sur la problématique des garanties, le responsable iranien a assuré que la résolution de celle-ci pouvait réparer le mur endommagé de la confiance entre l'Iran et l'Occident. L'Iran a plusieurs fois affirmé que les allégations de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) sur des traces d'uranium trouvées dans le passé dans certains de ses sites nucléaires étaient politiques et que ce dossier devait être clos simultanément à la relance de l'accord de 2015 sur le nucléaire iranien, officiellement connu sous le nom de plan d'action global conjoint. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir Abdollahian, a eu une conversation téléphonique dimanche 4 septembre avec son homologue indien, Subrahmanyam Jaishankar, sur des questions à l'ordre du jour, des relations bilatérales ainsi que sur certaines questions d'intérêt commun dans les domaines régional et international. Le chef de la diplomatie iranienne a transmis les salutations du président iranien, Ebrahim Raisi, au premier ministre indien, Narendra Modi. Évoquant le développement des relations entre les deux pays, M. Amir Abdollahian a qualifié de satisfaisant les fruits de sa récente visite en Inde et a déclaré que la République islamique d'Iran était prête à mettre en œuvre les accords conclus lors de cette visite officielle. Nous sommes prêts à organiser une nouvelle série de réunions du comité mixte pour la coopération économique entre les deux pays, a-t-il encore ajouté. À son tour, le ministre indien des Affaires étrangères, Subrahmanyam Jaishankar, a évoqué le bon niveau des relations et de la coopération entre les deux pays, exprimant son espoir que les relations se développeraient et s'amélioreraient dans divers domaines. Nous avons toujours soutenu la résolution de la question nucléaire iranienne et ce soutien se poursuivra à l'avenir, a souligné le ministre indien des Affaires étrangères. Le chef de la diplomatie iranienne a reçu l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies pour le Yémen, Hans Grundberg, dimanche à Téhéran. Les deux diplomates se sont entretenus des derniers développements au Yémen. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir Abdollahian, tout en soulignant qu'il incombait au peuple yéménite de décider de l'avenir de son pays, a déclaré que la République islamique d'Iran souhaitait la paix, la stabilité et la sécurité pour la grande nation yéménite et pour toute la région et le golfe Persique. M. Amir Abdollahian a insisté que la poursuite des conditions actuelles, y compris la trêve permanente, dépend de la levée complète du siège imposé au peuple yéménite. L'envoyé des Nations Unies pour le Yémen a pour sa part exprimé sa gratitude pour les actions constructives de la République islamique d'Iran, a souligné qu'il cherchait à établir un cessez-le-feu depuis le début de sa mission en tant que représentant spécial des Nations Unies. Grundberg a ajouté qu'il a toujours souligné la nécessité d'un cessez-le-feu durable et permanent avec la participation de toutes les parties. 5 terroristes daéchistes, dont 2 dirigeants locaux, ont été tués dimanche 4 septembre au cours de 2 opérations visant à débusquer les terroristes de ce groupe dans le nord de l'Irak, a annoncé l'armée irakienne. Un communiqué du service de presse et du commandement des opérations conjointes d'Irak a déclaré que les forces de sécurité irakiennes ont attaqué 2 cachets de Daesh, dont elles ont tué 3 membres lors d'une opération dans la province de Kirkuk, dans le nord de l'Irak. Les forces de l'armée irakienne ont également saisi 4 engins explosifs, une ceinture d'explosifs, une moto, une caméra et d'autres pièces d'équipement sur les lieux, selon le communiqué. Un autre communiqué du service de presse du commandement des opérations conjointes d'Irak indique qu'une unité conjointe de l'armée et des forces Hashd al-Shaabi ont éliminé un cadre local de Daesh et un autre terroriste après les avoir encerclés dans les monts Imren, à la frontière entre les provinces de Kirkuk et de Salahitine. En Syrie, un total de 171 civils ont été tués à ce jour, de dimanche 4 septembre 2022, par les explosions de mines terrestres et d'autres équipements militaires abandonnés dans d'anciennes zones de guerre en Syrie. Un correspondant de Sana'a, l'agence de presse officielle syrienne à Homs, a indiqué qu'une mine abandonnée par les terroristes avait explosé dans une ferme agricole appartenant au village d'Al-Dabba dans la région d'Al-Usayr, ce qui a fait 3 enfants martyrs. Cette année, 171 civils ont été tués par des explosifs, dont 86 enfants. 251 personnes avaient été blessées, dont 141 enfants. Dimanche 4 septembre, 3 enfants ont été tués par un engin explosif dans le village de Dabba, dans le sud de la province de Homs. L'armée syrienne a fait sauter presque chaque semaine les explosifs qu'elle découvre dans d'anciennes zones de combat. En juin, les Nations Unies ont affirmé que la présence de matériel militaire explosif représentait un grand sujet de préoccupation en matière de protection, alors qu'on estime qu'un Syrien sur deux vit dans des zones contaminées. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a eu dimanche 4 septembre un entretien téléphonique avec son homologue italien Sergio Mattarella, lors duquel ils ont échangé les vues sur les relations bilatérales et exceptionnelles entre les deux pays amis dans plusieurs domaines, a indiqué un communiqué de la présidence algérienne. Tout en saluant, selon la même source, la solidité de ces relations exceptionnelles et de haut niveau établies entre les deux pays amis dans plusieurs domaines, les deux chefs d'État ont examiné les moyens à même d'accélérer la mise en œuvre des résultats des visites des deux chefs d'État et des différentes décisions prises dans l'intérêt des deux peuples. Ils ont souligné le maintien des canaux de communication ouverts pour la coordination et la concertation permanente, a ajouté la même source. En déplacement à la fin du mois de mai dernier en Italie, le président algérien Abdelmadjid Tebboune a renouvelé l'engagement de l'Algérie à satisfaire tous les besoins énergétiques de l'Italie. Depuis le début de la guerre en Ukraine, les autorités italiennes se sont tournées vers l'Algérie pour lui demander d'augmenter ses livraisons de gaz. Les Italiens veulent obtenir la livraison de 10 milliards de mètres cubes de gaz supplémentaires, sachant qu'en 2021, l'Algérie a acheminé via le gazoduc transméditerranéen un total de 22 milliards de mètres cubes de cette énergie. Outre le gaz, l'Algérie et l'Italie avaient annoncé, Abdelmadjid Tebboune à Rome, ont conclu un autre accord portant sur la fourniture de l'électricité à l'Italie et à une partie de l'Europe via une ligne maritime. Voilà, ainsi s'achève le journal. Restez à l'écoute du commentaire politique. L'Algérie réarmera Gaza. Y a-t-il une quelconque modalité de commerce entre l'entité israélienne d'une part et l'Algérie de l'autre? Évidemment que non, et mille fois plus qu'une. Alors pourquoi les sunnistes se mettent-ils à prétendre vouloir sanctionner les entreprises algériennes? Pour éviter un véritable naufrage dont leur politique maghrébine fait l'objet depuis qu'Alger a décidé de se rapprocher de la résistance palestinienne, y compris de son aile frériste, au point même d'ambitionner de remplacer la Turquie auprès du Hamas. Au fait, cette perspective qui équivaut in fine à une totale rupture avec l'idée d'un quelconque compromis Israël-Palestine suscite une autre crainte. Celle d'une coopération militaire étroite entre Alger et Gaza qui serait à même de renvoyer largement la balle de la normalisation dans le camp sioniste. Alger compte-t-il s'engager de plus près à Gaza, de présider à un échange de combattants, d'expériences militaires d'armes entre Gaza et le Sahara à l'effet de basculer le jeu maghrébin en faveur de la résistance? C'est plus qu'une probabilité, sinon comment comprendre cette avalanche d'annonces précipitées de la part d'Israël qui touche tous les domaines et dont l'objectif consiste à impressionner la résistance maghrébine. En voici une première annonce, colportée depuis quelques jours par les agences pro-sionistes. Le ministre de la Guerre d'Israël a dans ce cadre fait part de l'imposition de sanctions à 20 personnes et entreprises, une société algérienne entre autres, à cause de leur lien avec le Hamas. Récemment, le ministre israélien de la Guerre allègue que la société algérienne Sedar soutient le mouvement de résistance islamique Hamas avec d'autres sociétés arabes. Le groupe Sedar est l'une des plus importantes entreprises algériennes dans le domaine du fer et de l'acier et dispose de 7 branches dans la production de barres d'armature, de plaques d'acier et de tuyaux. Selon un communiqué publié par le bureau de Benny Gantz, le Hamas a des investissements d'une valeur de centaines de millions de dollars par le biais d'entreprises arabes. Israël a-t-il peur que ses productions servent dans les ateliers de Gaza à la fabrication des armes? Or, cette annonce entrecroise une autre, celle qu'a l'air du déjà vu, mais que les sionistes mettent au devant de la scène, là encore pour cacher leur inquiétude. Selon ce rapport, Rabat se doterait d'une nouvelle base aérienne dans la zone militaire nord. La nouvelle base militaire devrait être construite dans le nord du Maroc, près de la ville d'Oseim, où l'armée marocaine est censée installer les DCA achetés à la Chine, aux États-Unis et à Israël. La décision de créer cette nouvelle infrastructure fait aussi suite à l'établissement d'une zone militaire dans l'est du pays, près de la frontière algérienne. Mais comme si cette deuxième annonce ne suffisait pas, il y a une troisième information que rapportent les médias pro-sionistes. D'après eux, Rabat aurait décidé d'aller encore plus loin, demandant à l'entité de lui fournir des drones de type Hermès 450. Ce drone tactique devrait donc s'ajouter au kamikaze Arop, au drone de collecte de renseignements sionistes arrivé au Royaume pour espionner l'Algérie ou liquider les Sahrawis. Mais quelle est cette crainte que pousse Israël à bomber autant le torse? La réponse, il faut la rechercher dans les rues de la Cisjordanie et à Gaza, là où tout Palestinien est convaincu qu'Alger a étouffé dans l'œuf la normalisation.